À 1h05, voici la dernière partie de la Grande Table. Caroline Brouet.
Et c'est la suite de cette journée spéciale de France Culture sur le 11 janvier. Comment penser le 11 janvier? Comment les savoirs permettent-ils de penser cet événement? Quelle est la circulation des idées, aussi bien en matière de recherche à l'intérieur même des instances de recherche, mais aussi à l'extérieur? Comment faire sortir les idées des instances de recherche et qu'elles débouchent sur des activités et des actions et des décisions politiques? Nous avons souhaité inviter François Héran aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'INED, l'Institut National des Études Démographiques, que vous avez dirigé de 1999 à 2009. Vous êtes directeur du département des sciences humaines et sociales de l'Agence Nationale de la Recherche. Et vous avez écrit la préface de cette grande enquête de l'INED qu'elle a rendue publique vendredi et qu'elle a été Il a été publié sous le titre « Trajectoire et origine, enquête sur la diversité des populations en France », rendu public et publié par l'INED, l'INED Édition, une enquête dirigée par Chris Bouchemin, Christelle Hamel et Patrick Simon, à laquelle a participé notre deuxième invité du jour, Myrna Safi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous êtes chargé de recherche à Sciences Po. Vous êtes spécialiste de l'immigration, de l'intégration, de la discrimination et vous êtes notamment l'auteur des inégalités ethno-raciales à la découverte. On voit bien ce qui va nous occuper aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet de cette trajectoire et origine, Théo, telle qu'elle a été reformulée avec ses chercheurs. J'aimerais avec vous, François Héran, que vous nous disiez un mot des recherches qui sont menées à l'Institut National d'Études Démographiques, et ce peut-être depuis un an. Cette enquête remonte à plus de 10 ans, on va y venir tout à l'heure. Mais ce, depuis un an, on se souvient notamment de l'appel à projet lancé par le président du CNRS, Alain Fuchs, qui faisait lui-même référence à une tribune qu'il avait signée dans un journal juste après Charlie. Après Charlie, quelle recherche? C'était le titre de sa tribune. Et puis dans cet appel qui date du 18 novembre, eh bien c'était vraiment un appel à projet. Il disait qu'il fallait, à proposition, il disait qu'il fallait que des propositions soient mises sur la table sur tous les sujets pouvant relever des questions posées à nos sociétés par les attentats et leurs conséquences, et ouvrant la voie à des solutions nouvelles, sociales, techniques, numériques. J'aimerais vous poser la même question en matière de démographie. Est-ce qu'à l'INED, vous qui avez dirigé cette maison, mais qui en êtes très très proche encore, et puis d'ailleurs au sein même de l'Agence Nationale de la Recherche, les choses ont bougé depuis un an?
Alors, je voudrais d'abord dire qu'une grande enquête comme Théo, c'est pas seulement l'INED, c'est aussi l'INSEE.
Tout à fait.
Et c'est très important parce qu'il faut vraiment une solide alliance entre la statistique publique et la recherche publique pour que des enquêtes pareilles soient possibles. On ne le dit pas assez, et on a eu une collaboration vraiment extrêmement dense entre l'INSEE et l'INED. L'INSEE, c'est une direction du ministère des Finances qui fait la statistique publique, et l'INED, c'est un organisme de recherche indépendant qui dépend du ministère de la Recherche. Ce n'est pas du tout le même statut, mais ils sont capables de travailler ensemble pour faire avancer notre connaissance, notamment de l'intégration, des discriminations, car ce sont les deux sujets fondamentaux. Alors, l'INED, comme tous les instituts de recherche, ont été invités. Alors, il y a eu le directeur du CNRS qui a pris cette initiative, mais auparavant déjà, l'Agence Nationale de la Recherche, et donc le département des sciences humaines et sociales dont je m'occupe, a été invité à lancer des appels sur les questions qui nous agitent. En réalité, il y a 2 ans déjà, j'avais introduit le thème de la radicalisation dans le programme, dans l'appel à projet de l'Agence Nationale de la Recherche. Pourquoi? Parce que j'ai vécu aux Pays-Bas en 2011, et aux Pays-Bas, dès 2011, c'était un grand sujet, avec une capacité pour les chercheurs universitaires, l'université de Leyde, d'Utrecht, etc., de travailler avec les spécialistes du ministère de l'Intérieur, par exemple. Le ministère lançait des appels d'offres auxquels répondaient les chercheurs. Et très vite, s'est posé la question de savoir qu'est-ce que c'est la radicalisation? Est-ce que le salafisme est quelque chose qui est une espèce de mouvement quiétiste qui protège contre la radicalisation? Ou est-ce que c'est au contraire l'antichambre de la radicalisation? Les chercheurs des Pays-Bas, après 3 ou 4 ans, penchent plutôt pour la deuxième thèse. En France, des chercheurs comme ceux de l'UHESS, par exemple, comme Farhad Khosrokavar, ne sont pas du tout sur cette ligne-là. Ils pensent au contraire que le salafisme est une protection contre la radicalisation. C'est un exemple de sujet sur lequel il y a encore beaucoup à apprendre. Il y a encore des recherches empiriques à mener. Ça peut être des enquêtes quantitatives, ça peut être des enquêtes qualitatives, ça peut être une analyse précise du numéro vert.
Juste sur ce point, comment on fait pour rester dans la méthodologie? Comment on fait, par exemple, sur ce thème que vous venez de dire, sur le salafisme, protection ou antichambre des terroristes, comment on ferait une enquête là-dessus? À qui on s'adresse? Quelles questions on pose? Juste pour savoir comment vous travaillez.
Là, ce sont typiquement des observations qualitatives, ce sont des méthodes de sociologie qualitative ou d'anthropologie. Ça consiste à accompagner des personnes, ça consiste à travailler avec les associations qui s'occupent de ces questions-là, qui se lancent dans les programmes de déradicalisation. Ça consiste à s'intéresser aux expériences étrangères, à faire de la comparaison internationale. Ça nous manque cruellement. Je pense que on a de plus en plus besoin de savoir ce qui se fait à l'étranger, même si les contextes, évidemment, sont extrêmement différents, parfois d'un pays à l'autre. Il y a aussi des points de convergence, il y a des enseignements. Si les Pays-Bas ont commencé 5 ans avant tout le monde, ou les Norvégiens, par exemple, travaillent là-dessus, eh bien, nous devrions aller y regarder de plus près. Voilà un peu, du point de vue de la méthode, ce qu'on pourrait faire.
François Héran, vous parliez de la recherche en matière de radicalisation, par exemple, des études qui pourraient être faites ou qui sont déjà faites. Quand je reprends la lettre du président du CNRS, Alain Fuchs, lui, pointait le besoin de recherche sur le comportement humain, individuel et collectif, ainsi que sur les processus et les trajectoires de radicalisation, précisément. Et aussi, il l'appelait à soutenir les études sur l'islam. Est-ce que vous avez, en matière démographique, ou plus largement au sein de l'Agence nationale de la recherche, en dehors de cette question de la radicalisation, pointé depuis un an des manques en France?
Alors, il est certain qu'on manque de bons spécialistes de l'islam et des pays musulmans. D'abord, il faut avoir les compétences linguistiques nécessaires. Elles sont quand même pas très répandues. Il y a eu un recul des études arabes ou arabisantes en France. Et ça, le président du CNRS en a bien parlé. Il faut relancer un certain nombre de départements là-dessus. Il y a aussi les études religieuses. Nous essayons à l'ANR, à l'Agence nationale de la recherche, de donner une place de plein droit aux études, aux sciences des religions. Comment ça marche? Quelle distinction peut-on faire entre le fondamentalisme, le radicalisme? Est-ce que toutes ces notions se valent ou pas? Vous avez quelques centres en France, 2, 3, 4, pas tellement plus, qui travaillent sur ces questions-là. Pourquoi le libre examen des textes sacrés est-il si difficile en islam? Quelques intellectuels isolés s'y essaient, mais pourquoi au fond ne sont-ils pas écoutés, alors qu'on pourrait penser qu'a priori la possibilité du libre examen pourrait fonder de façon plus légitime une pratique ouverte et tolérante de l'islam, qui existe dans la pratique, que l'on voit parfaitement dans l'enquête Théo. Je veux dire quelque chose d'important, c'est que dans l'enquête Théo, on pose des questions sur la religion, parce que contrairement à ce que beaucoup s'imaginent, on peut poser des questions sur la religion en clair dans les enquêtes de la statistique publique. Beaucoup s'imaginent qu'il n'y a pas de statistiques religieuses en France. Il y en a. Il y a au moins 3 enquêtes de la statistique publique qui contiennent ce genre de questions. Et pour les musulmans, eh bien, on pose des questions sur un sentiment d'appartenance à une religion, mais c'est vrai aussi pour les catholiques, les protestants, les juifs, les bouddhistes, etc. Et ensuite, on demande, il y a une question sur la pratique, et il y a une question sur quelle est l'importance de la religion dans notre vie quotidienne. Parce qu'il s'est trouvé qu'au point de vue international, c'est ce genre de question qui, au fond, permet le plus facilement les comparaisons entre les religions, entre les pays. Et vous avez à peu près la moitié. C'est beaucoup par rapport à ce qui se passe chez les catholiques, par exemple, mais vous avez à peu près la moitié des personnes se disant musulmanes qui disent « oui, la religion est une chose très importante dans ma vie ». C'est à peu près les niveaux qu'on rencontre aux États-Unis pour l'ensemble de la population, alors qu'en Europe, c'est plutôt 10% en général. Donc, il y a un décalage entre l'intensité de la croyance chez les musulmans en France par rapport à une société qui est très laïcisée, très sécularisée, et c'est ça un des problèmes. Mais, vous voyez, tout ça, c'est de la sociologie religieuse qui ne s'improvise pas. Il faut connaître les questions à poser, les différencier, les graduer, faire des comparaisons. Et c'est ce qui manque cruellement dans un certain nombre d'essais que je vois circuler à droite et à gauche.
François Héran, vous disiez tout à l'heure que cette enquête Trajectoire et Origine, Théo donc, était le fruit d'une collaboration entre l'INED et l'INSEE, mais y ont collaboré des chercheurs de Sciences Po, comme par exemple Myrna Safi ou comme Vincent Tibéri. Donc je voudrais vous poser la même question, Myrna Safi, quant à la recherche à Sciences Po cette fois, comme quant à ces questions que j'ai posées à François Héran. Est-ce que, puis ensuite nous allons entrer dans le fond, le sujet vraiment de l'enquête, mais quant à ces questions que les chercheurs que vous êtes peuvent s'être posées ou pas depuis un an, est-ce que des choses ont changé? Est-ce que des sujets de recherche ont émergé, des thématiques entre vous? Est-ce qu'il y a des débats que vous vous êtes posés que vous ne posiez pas avant?
À Sciences Po, pour commencer, parce que c'était un peu la question directement, à Sciences Po, je pense qu'on a des experts très reconnus. Il suffit de regarder, en fait, les tribunes qui ont été publiées récemment dans les médias, ou même les enquêtes, proprement dites. On a vraiment des gens qui travaillent là-dessus depuis longtemps, que ça soit en sciences politiques, en relations internationales, en sociologie, comme dans d'autres établissements, d'ailleurs. Je pense qu'effectivement, on est un petit peu secoué, d'abord comme citoyen, donc les chercheurs sont aussi des citoyens, donc de fait ils se posent peut-être des questions autrement, ils refont eux-mêmes le bilan de ce qui, comment ils ont contribué, etc. Donc effectivement que les événements aient suscité une nouvelle dynamique, de nouvelles interrogations, c'est tout à fait compréhensible, que ça soit à Sciences Po ou ailleurs. Mais plus généralement, et pour dépasser un peu le cadre de Sciences Po, je pense que j'ai deux remarques un peu sur aussi les questionnements que ça soulève quant au rapport de la recherche à l'actualité, ou notamment à une actualité aussi spécifique, exceptionnelle, j'ai envie de dire. D'abord, une remarque sur la forme et une remarque sur le fond. C'est très bien, effectivement, de mettre en avant ou de faire une place importante à la recherche. On ne demande que ça, hein, donc parmi les acteurs qui sont au moins consultés, on va dire, pour dessiner les contours d'une politique publique sur ces questions, en tant qu'experts de la société française en général et de problèmes particuliers, comme par exemple les questions de radicalisation. Mais c'est vrai que moi, je ne peux que émettre quelques interrogations sur le contexte aussi. C'est-à-dire, moi, je me mets à la place de mes collègues aujourd'hui qui se considèrent comme déjà assez formés pour travailler sur ces questions et qui voudraient répondre, par exemple, à des appels à projets spécifiques. Et je me mets à leur place. Et j'avoue que j'éprouverai quand même quelques réticences. Quand on commence d'abord par nous dire du haut des autorités publiques qu'on ne peut pas expliquer, mais que la moindre explication serait excusée. Comment voulez-vous qu'on travaille vraiment sur ces questions de manière objective ? Le deuxième point que j'ai envie aussi de soulever, c'est qu'il y a aussi une forme de frustration, c'est-à-dire qu'il y a des experts qui travaillent, encore une fois, peut-être pas de manière aussi spécifique que le cadrage actuel, hein, c'est-à-dire, mais qui travaillent sur des questions qui se rattachent à ces problématiques et qui se sentent frustrés parce qu'ils se disent aujourd'hui on nous dit venez nous expliquer ce qui se passe, mais pendant longtemps nous on explique quand même des choses. Par exemple, on a aujourd'hui une masse de données et d'évidence empirique assez importante sur les questions de discrimination en France. On a eu des rapports, d'innombrables rapports sur ces questions. J'aimerais bien qu'on nous montre quand est-ce que les pouvoirs politiques ont écouté vraiment les chercheurs là-dessus. Donc voilà, on est un petit peu sur la forme assez frustrés. Si je peux juste rajouter un point, sur le fond, c'est vrai qu'après, il y a aussi une question plus importante, je pense, c'est le contour de problème. De quoi parle-t-on ? Est-ce qu'il faut des projets de recherche très spécifiques sur la radicalisation ? Et de ce point de vue-là, moi, j'ai un petit peu peur, mais ça, c'est mon point de vue personnel, qu'on touche là les limites, on va dire, de l'enquête en sciences sociales. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce qu'on veut que les chercheurs nous disent pourquoi ces jeunes, c'est par rapport au texte que vous venez de citer, pourquoi ces jeunes sont passés à l'acte, hein, de manière très individualisée et très, très... Je pense qu'on... On aura un petit peu du mal à répondre de manière causale, c'est-à-dire quels sont les facteurs qui permettent d'expliquer ça. Tout simplement parce que, pour des raisons méthodologiques, voilà, on peut faire des enquêtes de terrain, mais ça pose des questions aussi de cadrage juridique. Comment on peut accompagner des jeunes qui sont en fait dans ce type de dynamique ? Comment un chercheur peut les accompagner ? Donc, il y a vraiment des questions méthodologiques très pointues qui suggère que c'est quand même pas si simple que ça de répondre à cette question précise qui est celle de comprendre pourquoi ces jeunes spécifiquement sont passés à l'acte. En revanche, alors la masse de problématiques qui se rattachent et qui nous permettent de dessiner les contours et les conditions en fait d'émergence de ce phénomène de violence en France est très très large et elle dépasse la question de la radicalisation. Elle est, comme vient de le dire François Errand, liée à la sociologie de la religion. Il y a beaucoup de choses quand même qui sont faites. Toute forme de fondamentalisme d'ailleurs, qui est étudiée aussi dans les sciences sociales, les questions urbaines, les questions d'intégration et d'immigration, les questions de discrimination, d'inégalité. Donc voilà, quelques thématiques où il y a quand même des chercheurs qui ont des choses à dire, qui permettent... Donc on a besoin d'un bilan d'abord, je pense, hein, qui permet un petit peu de rassembler tous ces travaux issus de domaines assez différents, mais quand même qui permettent de tracer ce contour-là. Puis peut-être aussi s'interroger jusqu'où on peut aller dans l'enquête sur la radicalisation, répondre de manière très spécifique à cette question.
François Errand.
Oui, alors, sur un point précis, eh bien, la radicalisation fait partie des nombreux thèmes avec les discriminations qui sont inclus dans l'appel à projet lancé par l'Agence nationale de la recherche. Je peux vous dire que les principaux laboratoires en France qui œuvrent dans ce domaine se sont portés candidats. Donc, et ce sont d'autres chercheurs qui vont évaluer ce sujet, des chercheurs... Bah, en général, on essaie de les prendre soit dans des laboratoires, on doit les prendre dans des laboratoires complètement différents, mais aussi à l'étranger, dans des pays voisins ou des pays plus lointains. Et donc, les chercheurs eux-mêmes, une partie des chercheurs sont intéressés à être plus en prise avec l'actualité. Maintenant, c'est vrai que ce qu'on attend de la recherche, et Myrna, sa fille, a tout à fait raison, c'est du recul, c'est de la comparaison, c'est de la comparaison dans le temps et dans l'espace. Et voilà.
Donc, on n'intéresse pas les politiques.
Alors, si vous voulez, sur la question qui a été, qu'elle a évoquée le Premier ministre, disant, mais chercher à comprendre, c'est excuser, etc. Bon, là, je trouvais qu'il y a quelques jours, Bernard Lahire, qui est quand même un grand sociologue
que
français,
que nous avons reçu à la Grande Table, fin décembre.
Voilà, a fait une excellente tribune sur le sujet.
Un livre même.
Oui, chercher à comprendre, chercher à déceler tous les facteurs, hein, qui peuvent, tous les déterminants probabilistes, évidemment, au niveau individuel, c'est une autre affaire. Hein. Aristote déjà disait que l'individu est infini, donc on ne va pas expliquer l'individu. Mais quand on a des forces collectives très très inégales, qui pèsent de façon très inégale sur les destinées, ben c'est normal qu'on cherche à les mesurer. Et là, je dois dire que depuis 25 ans, il y a eu un énorme progrès des travaux sur l'immigration, notamment grâce à toute une série de variables qu'on n'avait pas quand j'étais jeune et dont on dispose maintenant pour avancer dans la connaissance de l'intégration et des discriminations.
France Culture, la Grande Table, Caroline Brouet.
Avec nos deux invités aujourd'hui, François Héran, qui est directeur de recherche à l'Institut National d'Études Démographiques, qu'il a dirigé de 1999 à 2009, qui dirige le département des sciences humaines et sociales de l'Agence Nationale de la Recherche et qui a écrit la préface d'une enquête très importante intitulée Trajectoire et origine, enquête sur la diversité des populations en France, qui vient tout juste de paraître, enquête à laquelle a participé la sociologue chargée de recherche à Sciences Po, Myrna Safi, qui est avec nous également. Aujourd'hui, entrons dans le vif de cette enquête avec vous deux, si vous le voulez bien. Il s'agit donc d'une enquête sur les parcours des migrants et de leurs descendants. Je vais d'abord vous poser la question très simple de la difficulté de travailler sur ce sujet. C'est une enquête, François Héran, qui remonte à 2008-2009, mais dont les résultats sont inédits, d'une certaine façon. Pour quelles raisons on a mis tant de temps? Et vous le faites dans votre préface, vous remontez à Michel Tribal en 1992, vous passez par Vincent Tibéri et Sylvain Brouard en 2005, mais cette enquête de ce type-là est une enquête qui est une première.
Alors, c'est une première de faire une enquête qui porte systématiquement sur tous les courants migratoires, quelles que soient leurs origines. Michel Tribala avait dû, pour des raisons techniques, se limiter à quelques courants migratoires d'anciennetés diverses. Donc là, tout le champ est couvert. On couvre également les enfants des migrants, non seulement ceux qui ont franchi la frontière, se sont installés en France depuis au moins un an, mais également leurs enfants, qu'ils soient nés en France ou pas. Et c'est très difficile d'atteindre cette population-là, parce que, par exemple, pour donner juste une il n'existe aucun registre sur lequel vous auriez un rapport de filiation avec des parents immigrés nés à l'étranger. Et donc, il a fallu aller, avec l'autorisation des juges d'instance, aller dans les tribunaux pour aller récupérer les pays de naissance des parents de milliers de personnes afin de constituer l'échantillon. C'est pas normal. Ça prouve qu'on manque quand même des équipements assez fondamentaux pour avoir ça. Dans le recensement, je rappelle, on n'a pas le pays de naissance ou des parents ou l'ancienne nationalité des parents, on a le pays de naissance ou l'ancienne nationalité des personnes elles-mêmes. On ne remonte pas à la génération précédente. Et depuis peu, depuis 2003, 2004, maintenant dans les grandes enquêtes de l'INSEE, mais ce n'est pas encore des échantillons toujours suffisants, on a maintenant le droit de poser des questions sur le pays de naissance des parents ou sur l'ancienne nationalité des parents, et donc d'identifier les enfants de migrants, et donc d'être capable d'étudier leur sort à diplôme égal, à âge égal, etc., c'est-à-dire d'étudier les discriminations.
Voilà, on peut être rentré dans le vif du sujet. Est-ce que le Monde avait bien résumé le résultat de cette enquête en disant « les enfants d'immigrés s'intègrent mais restent victimes du chômage et de la discrimination ».
Bien, il y a une technique fondamentale qui est appliquée, qui est un peu la même technique que celle du testing. Hein. On envoie deux CV ou deux personnes totalement jumelles à cette différence près qu'elles ont une caractéristique, hein, qui les... Voilà. peut être une origine, un patronyme, enfin quelque chose qui renvoie de façon visible ou perceptible à une origine migratoire particulière ou une apparence physique particulière. Bon. Et puis on voit le résultat. Est-ce que les chances d'être admis dans le lieu, d'être embauché, d'être promu, d'avoir accès au logement, etc., sont les mêmes ou pas quand il y a juste cette caractéristique qui change. Alors ce que faisait le testing à une toute petite échelle, on peut le faire maintenant à grande échelle avec les enquêtes statistiques. On mesure toutes choses égales par ailleurs. Est-ce que à âge égal, à diplôme égal, pour les personnes de même sexe, etc., puis on peut ainsi neutraliser une série de facteurs, est-ce que l'origine fait encore la différence? Et la réponse est oui, l'origine fait encore des différences considérables dans les chances d'accès aux biens de toutes sortes qui sont distribués dans la société, l'éducation, l'emploi, l'embauche, le logement, l'accès à la culture, etc.
Juste quelques chiffres peut-être?
Ben, si vous voulez, ce sont des disproportions, des distorsions qui sont considérables, 3-4 fois moins. Alors, les différences brutes, par exemple, de performance scolaire entre les élèves natifs et les élèves immigrés, si j'ose dire, c'est des écarts considérables. Le taux de chômage, par exemple, est à peu près le double chez les... Maintenant, quand on regarde à diplôme égal, eh bien, il y a encore des différences qui sont tout à fait anormales. Il y a encore souvent 2 fois ou 50% de plus. Enfin, les difficultés à avoir accès aux biens de la société sont nettement plus fortes chez les enfants d'immigrés. Et ce que constate l'enquête de façon vraiment systématique, c'est que ça varie entre les groupes d'origine selon finalement la visibilité de la différence. Et là, il y a un test extraordinaire qui a été fait dans cette enquête. C'est la première fois. C'est qu'on a pris aussi des personnes nées dans les territoires d'outre-mer et leurs enfants. On a des gens qui sont français depuis des générations et des générations, qui ont accès à la fonction publique, etc., mais qui néanmoins se disent et discriminés et qui, de fait, dans leur trajectoire, ont expérimenté des discriminations. Pourquoi ? Ben, manifestement, à cause de leur couleur de peau. Et là, de ce point de vue-là, ils sont à peu près sur le même plan, dans certains domaines, pas dans tous, hein, que les personnes originaires d'Afrique subsaharienne, par exemple.
Yana Safi, vous qui avez travaillé sur la différence entre la perception et l'expérience, est-ce que les conclusions sont les mêmes quand il s'agit de ressentir les choses ou quand il s'agit de les vivre?
Alors, en fait, effectivement, je pense un point fort de l'enquête, hein, une contribution très importante, c'est qu'elle permet aussi de décrire un peu les situations, la perception, les situations subjectives, on va dire, des populations, ce qui était déjà le cas dans l'enquête précédente, hein, donc citée MGIS, mais là, vraiment, il y a un parti pris de dessiner un peu le vécu de ces populations quant aux questions de discrimination, mais aussi avec beaucoup de détails sur, par exemple, comment... Pourquoi ils pensent qu'ils sont discriminés ou pourquoi ils pensent qu'ils sont sujets à des traitements inégaux ou injustes. Et on a là donc ces questions-là qui sont posées, encore une fois, de manière subjective, dans vraiment différentes sphères de la vie sociale, hein, que ça soit à l'école, marché du travail... les questions de logement, et c'est très fort, enfin c'est effectivement un résultat assez fort de l'enquête, c'est que il y a un ressenti de discrimination très fort, notamment pour les secondes générations issues de l'immigration africaine, avec parfois des taux, c'est-à-dire qu'une question générale comme est-ce que vous avez subi une discrimination lors des 5 dernières années, on a à peu près 15% de la population la population immigrée et descendants d'immigrés qui disent oui, et on atteint des chiffres qui frôlent le 50% quand on est sur des populations issues de l'immigration africaine et aussi d'ailleurs les natifs de DOM. Donc on a en France maintenant, l'enquête confirme cela, mais on a aussi vraiment une masse de données, que ça soit par des études de testing, qui confirme de manière très claire qu'il y a de la discrimination en raison de l'origine, voire même aujourd'hui des études concluantes quant à la discrimination, quant à la religion musulmane. Hein, avec, on atteint des chiffres de 6 fois plus donc de CV envoyés, hein, pour un candidat qui indique ou qui suggère une origine musulmane. Les testings qui montrent plutôt des discriminations à l'emploi pour les populations immigrées nord-africaines atteignent des chiffres de 2,6 fois ou 3 fois plus. Donc l'enquête Théo confirme cela, mais l'enquête Théo rajoute aussi un volet subjectif, hein, en montrant que aussi ces personnes-là en fait sont tout à fait conscientes, hein, du fait, et c'est un des résultats de notre petit chapitre, c'est qu'en fait ça montre une forme de concordance, de logique, de cohérence entre un vécu de discrimination subjective et aussi une mesure par les chercheurs de discrimination objective.
Et il y a aussi une intégration, malgré tout, de la société française, montrez-vous, avec cette enquête, François Héran, qui est une intégration qualifiée par les directeurs de cette enquête d'asymétrique, c'est-à-dire une intégration qui serait réelle en matière socio-économique, mais une insertion sociale qui ne serait pas encore acquise, qui est en cours d'acquisition, comme on dit à l'école.
Alors, l'asymétrie, elle est surtout spectaculaire quand on pose de la question de savoir si vous vous sentez français. Et un nombre de gens importants, et cela varie encore toujours selon le même gradient, selon l'origine et la visibilité de l'origine, un grand nombre de personnes disent « moi je me sens parfaitement français, mais les autres non ». Et donc le déni de francité, c'est la formule utilisée par les auteurs de l'enquête, est mesuré de façon précise. Et là, évidemment, c'est quelque chose qui nous interroge tous. Alors, il faut voir qu'évidemment, une bonne enquête sur l'intégration, c'est pas la comparaison comme ça brute de l'ensemble des personnes qui sont d'origine française et l'ensemble des personnes d'origine immigrée. Ça se mesure au cours du temps. Hein. C'est-à-dire qu'il faut savoir si, à partir du moment où vous êtes entré en France, ou bien est-ce que peu à peu, cette minorité va se rapprocher ou non de l'autre, de l'ensemble de la population, en termes de salaire, d'emploi, etc., de participation à la vie civique, enfin de toutes sortes de choses.
Et alors ?
Et avec le temps, oui, le rapprochement se fait. Par contre, et donc plus les années passent, plus effectivement le rapprochement se fait. Et ceci d'ailleurs est vérifié par une autre enquête qui est faite au ministère de l'Intérieur, ELIPA, qui est une enquête longitudinale sur les personnes qui ont reçu un titre de séjour en 2009 et qu'on suit d'année en année. On les voit d'année en année parler de plus en plus le français, se sentir de plus en plus française, etc.
Est-ce qu'il y a pas un paradoxe là-dedans, parce que si c'est une question simplement de visibilité, on pourrait penser que ça ne change pas avec la nature de la personne,
alors,
la façon dont elle s'est intégrée ou pas.
Si vous voulez, le problème qui est pointé vraiment par les auteurs de l'enquête, enfin Mirna va développer, c'est qu'à la deuxième génération, le sentiment d'être discriminé, notamment parmi les fils, c'est pas seulement beaucoup plus que les filles d'ailleurs de maghrébins par exemple, est très fort. Et là, il faut bien comprendre pourquoi. La génération des parents, elle sait qu'elle a amélioré son sort en migrant. Elle ne le nie pas, ça a été très dur, elle a été un peu invisible, il se levait à 5h du matin pour aller travailler dans des usines que personne ne voyait, ça c'était les années 60-70. La seconde génération, elle est visible et elle n'a aucune, on ne voit pas pourquoi, elle prendrait comme référence le pays d'origine des parents. Ce que la génération prend comme référence de comparaison, ben, ce sont leurs camarades de même âge, c'est la génération du même âge née en France. Et là, cette comparaison évidemment déclenche des frustrations et une perception de discrimination qui est très forte. Et comme le disait Mirna, c'est vraiment un des grands apports de l'enquête Théo, de montrer que les discriminations objectives vraiment varient de la même façon que les discriminations ressenties. Et d'ailleurs, les discriminations ressenties à plusieurs niveaux. Un discours général sur la discrimination, une réponse à une question très générale, avez-vous été discriminé? Et un discours très circonstancié qui demande si on a eu telle ou telle expérience, de relater des expériences dans des domaines très précis. Donc que ce soit les discriminations objectives, c'est-à-dire des trajectoires interrompu, anormalement infléchi, ou les expériences précises ou générales, tout ceci concorde. Et on a même tendance, les personnes ont un peu tendance même à sous-estimer les discriminations qu'elles ont pu ressentir objectivement dans leur trajectoire.
Et vous n'avez pas été gênés les uns les autres. Alors 22 chercheurs ont travaillé sur cette enquête qui a porté sur 8300 immigrés issus de 7 vagues d'entrées successives comparées à celles de 8200 de leurs descendants et à des Français sans ascendance étrangère. Vous disiez tout à l'heure, Bernard Safi, que l'enquête portait en particulier sur la représentation et sur la perception, sur l'expérience et sur la perception, sur de l'auto-déclaratif. Quelle valeur vous avez accordée à ce subjectif, à cette subjectivité des réponses? Est-ce que vous n'avez jamais été gêné par le fait que ces réponses subjectives pourraient ne pas déceler une réelle réalité, disons?
Oui, c'est une question assez importante, mais c'est vrai qu'il faut présenter... En sciences sociales, on présente les choses comme elles sont, c'est-à-dire qu'on sait bien distinguer quand même ce qui est subjectif, ce qui est objectif, mais on ne peut pas travailler sur la société uniquement par des mesures froides, on va dire, qu'on considère comme étant la seule vraie. Parce que s'il n'y a pas de vérité absolue en sciences sociales, parfois il y a des vrais écarts entre les vérités et la perception des gens. La perception de la population est très importante. Un exemple que François connaît très bien, quand on interroge les Français sur le nombre d'immigrés en France, leur perception est très 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 importante par rapport à la réalité.
C'est le cas. C'est pour aussi ça que là, les conclusions objectives et les conclusions subjectives se rencontrent et c'est l'un des apports principaux.
C'est ce que je voudrais dire, c'est que justement des grands intérêts de l'enquête, ça ne veut pas tomber dans le simple recueil des impressions subjectives. Quand on voit que l'expérience vécue de la discrimination varie exactement de la même façon que l'expérience réelle de la discrimination, qui se mesure objectivement par le fait que à âge égal, à diplôme égal, à ancienneté de séjour égal, etc., vous n'avez pas les mêmes chances. Ça, c'est pas du discours, c'est toute la chronologie, c'est toute la biographie des gens qui est relatée par l'enquête et qui le démontre. Quand vous voyez cette coïncidence-là, et alors, en fait, ça rejoint quelque chose de beaucoup plus général. La science sociale, maintenant, ça fait déjà 30 ans qu'elle a pris ce tournant, mais elle fait davantage confiance qu'à l'époque du jeune Bourdieu, par exemple, qui se méfiait du discours des agents. Elle fait davantage confiance dans la capacité qu'ont les acteurs à rendre compte de leur expérience. Dire combien il y a d'immigrés en France, ça c'est une question très générale et qui suppose un instrument de mesure que les gens n'ont pas. Mais dire... est-ce que vous avez vécu, vous, des exemples où vous avez subi des traitements inégaux? Ça, c'est une expérience qu'ils sont totalement capables de restituer. Et la science sociale moderne, enfin, c'est pas une nouveauté, elle est capable de faire confiance aussi dans la capacité qu'ont les gens de dire ce qu'ils ont vécu. Et après, on vérifie, on compare avec des trajectoires réelles et les deux concordent très largement.
Bon, cette enquête est très riche, trajectoire et origine, c'est 600 pages, 10 ans de travail. On peut conseiller à nos auditeurs de se reporter au livre qui a été édité par l'INED. Mais comme on commençait cette deuxième partie, François Héran, sur la question de la circulation des idées et surtout sur ce qui avait changé peut-être depuis un an, je voudrais quand même terminer par la réflexion menée par le travail d'un autre démographe de l'INED, un chercheur de l'INED qui a été Emmanuel Todd, qui a jeté un pavé dans la mare il y a un an avec son livre sur les manifestations du 11 janvier, nous sommes le 11 janvier, en vous demandant comment les méthodes des démographes, précisément, puisqu'on est sur des questions de méthodologie, peuvent apporter un autre regard aujourd'hui, en reprenant comme exemple cette enquête, pour savoir sur quoi ça peut déboucher. Est-ce que les choses sont suffisamment avancées aujourd'hui en matière de méthodologie, de réflexion, et est-ce que ce livre d'Emmanuel Todd a pu, je ne sais pas, susciter un énorme débat, par exemple, au sein de l'INED, comme il y en a toujours eu des débats au sein de la recherche.
Bon, la recherche est pluraliste, les chercheurs sont en concurrence les uns avec les autres. Alors, le cas d'Emmanuel Todd est un peu spécial. Je ne dirais pas qu'il est démographe, c'est un historien des structures familiales, un anthropologue des structures familiales, qui a fait des livres tout à fait consistants sur ces questions-là. La démographie, c'est autre chose. C'est quand même toute une série de techniques particulières pour essayer de montrer comment, les comportements de fécondité, de nuptialité, de mortalité. Et la méthode démographique, ça consiste à suivre des populations au cours du temps ou bien à les interroger maintenant en leur demandant de reconstituer toute leur trajectoire. La dimension temporelle, individuelle, biographique est fondamentale en démographie et c'est ça la méthode. Donc le livre auquel vous faites allusion, c'est un essai sur, vous parlez de qui est Charles, c'est un essai qui ne mobilise pas du tout la méthode démographique.
Merci beaucoup à tous les deux, Myrna Safi et François Héran. Nous allons terminer en musique, comme chaque jour, cette émission de La Grande Table. Mais nous allons terminer, évidemment, en rendant hommage à David Bowie, avec une des chansons phares de David Bowie, Rock'n'Roll Suicide.
Time takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, 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 you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it, and the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe that you don't eat when you've lived too long. Oh no, no, no,
Vous pouvez retrouver La Grande Table sur Twitter, sur Facebook, la réécouter, la podcaster sur le site de France Culture. La page est actualisée chaque jour. Elle comporte notamment toutes les références bibliographiques et musicales que nous avons citées. La Grande Table, c'est Raphaël Bourgois, Clémence Marie, Jeanne Aléos, Henri Leblanc, Antoine Sims. À la réalisation, Philippe Baudouin. À la prise de son aujourd'hui, Clément Daté.